Je ne sais pas moi-même, mais de toute façon, il faut faire quelque chose. Quelque chose.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Écoutez, HTR Music.
20h, vous êtes sur HDR et vous avez sacrément raison sur 99.1 ou sur radiohdr.net pour le retour de ton livre. Et oui, ça me fait plaisir de vous retrouver, à la fois de reprendre le micro, de remettre le casque, de retrouver ce si cher studio d'HDR. C'est ton livre, c'est la première de l'année 2016. Il est 20h et avec moi, Marie Le Calonnec en studio. Salut Marie.
Bonsoir.
J'espère que toi aussi, tu es contente de retrouver ton casque, la table, le studio ?
Absolument ravie et bonsoir à tout le monde.
Alors, ton livre avait disparu des ondes pendant quelques mois. Et oui, pas toujours facile de s'organiser avec l'équipe, les chroniqueurs. Bref, en tout cas, nous sommes en 2016. Je vous souhaite une très belle année. Beaucoup de sons, de mix des cultures dans vos oreilles, tous les jours, tous les soirs, du matin au soir même. Et ton livre, jusqu'à la fin de la saison radiophonique, jusqu'au mois de juin, nous allons parler ensemble de sujets comme la démocratie, la citoyenneté, l'exercice du pouvoir, les initiatives citoyennes qui font société, qui font du vivre ensemble, qui font que les territoires vivent, bougent, qui réimpliquent les gens dans la chose publique. Et on va parler d'associations, d'initiatives autour de la démocratie, bref, plein de beaux sujets à investiguer. Ce sera tous les lundis à 20h, pendant une heure jusqu'à 21h pour décortiquer ces enjeux. Il y a plein d'initiatives qui existent un peu partout. On a envie d'en parler avec vous, n'est-ce pas Marie ?
Eh oui, ça sera la démocratie, un grand, grand sujet à explorer tout au long de l'année.
Alors, pour ouvrir ce cycle d'émissions, j'ai un invité, alors qu'il n'est pas avec nous en studio ce soir parce qu'il n'était pas disponible. Il s'appelle Jean-Philippe de Rosier. Il est constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Rouen. Je l'ai rencontré lundi dernier, c'était le 11 janvier. Et ensemble, pendant une heure, nous avons discuté pour avoir son regard de prof de droit pour ouvrir ce cycle. Et nous avons évoqué ensemble les mots qui font sens, qui sont importants. La démocratie, qu'est-ce que c'est ? La République, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative ? Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont peut-être des perspectives à imaginer pour nos institutions ou pas ? Quels sont les travers peut-être du système démocratique tel qu'il existe aujourd'hui ? Eh bien, vous allez pouvoir écouter, découvrir ce soir cette interview dans son intégralité. Alors ça, voilà, on va dire que c'est un presque indirect puisque vous allez entendre l'intégralité de l'interview, de la rencontre que j'ai pu avoir avec lui la semaine dernière. Mais avant de découvrir la voix de Jean-Philippe de Rosier, je propose que ce soit Marie qui ouvre cette émission avec une chronique qu'elle a pensée pour vous, pour ouvrir ce cycle de discussion.
Et oui, merci Rebecca, c'est un vrai challenge d'ouvrir ce cycle. Je me suis un peu creusé les neurones et... En fait, il y a quelques jours, j'ai entendu de la part d'un édile « La République est vivante, mais la démocratie est morte ». Ça m'a fait un drôle d'effet parce que je trouve que c'est assez vrai. Et parce que je suis française, nation championne de l'auto-bashing, et que je déteste trouver qu'un politique a raison. Notre démocratie est sclérosée, minée par des décennies d'un fonctionnement usé jusqu'à la corde, et notre République, plutôt que de trouver les moyens de lui donner du souffle, s'évertue pour des raisons d'opportunisme, plutôt à la priver de liberté, à l'étouffer encore davantage. Elle dépense quasi plus d'énergie à juguler des groupes de gens qui veulent juste vivre dans un monde meilleur avec des solutions pour le faire, et évite de traverser les quartiers qui en ont vraiment besoin d'elle. Et oui, au lieu de se bouger le cul, elle arrache les pattes des mouches en enfumant la populace avec la déchéance de nationalité et autres sujets un peu à la con, pardonnez-moi, c'était mon vocabulaire un peu pas très correct du soir. Parce que soyons clairs, quand tu as décidé de te faire sauter en entraînant d'autres humains avec toi, tu t'en fiches un peu et carrément franchement d'être français. Et peut-être que si le monde était plus démocratique, on n'en serait pas là d'ailleurs. Du coup, ça évite de parler de choses vraies, de démocratie. Et même si les élections de décembre ont eu pendant quelques heures l'effet d'un tsunami, quelques semaines plus tard, on évite de parler du sujet, des possibilités de réel de faire revivre ce vieux rêve. Et pourtant, il est urgent de la réinventer, cette démocratie. D'ailleurs, amis journalistes, plutôt que de spéculer déjà sur les foutues primaires et hypothétiques sondages pour l'élection de 2017, peut-être que vous tenez là un vrai sujet. Je dis bien un vrai sujet. Pendant des années, on nous a gavé de démocratie participative et franchement, je trouve que c'est pas réellement une réussite. Probablement parce que finalement, la plupart des habitants sont d'abord préoccupés par des besoins plus terre à terre comme manger, se loger et mettre ses enfants à l'école. En tout cas, quand il s'agit de participer par le vote, on voit bien, ça fonctionne moyen. Et puis, il faut dire que la classe politique, elle en voit pas franchement du rêve. D'ailleurs, les électeurs qui vont voter sans conviction sont, à mon avis, de plus en plus nombreux. Quant à ceux qui ont carrément fait des confettis avec leur carte d'électeur, ils sont majoritaires. Bizarrement, le Français attend que le politique lui promette la lune. Ce qu'il fait, avec force, sourire et promesses associées, il attend de lui qu'il le fasse rêver à un futur pavé de diamants et de paillettes. Le deal est presque parfait et les urnes donnent le plus prometteur gagnant. Et puis, une fois élu, le principe de réalité s'impose violemment à tous. Et à partir de ce moment, le Français adore détester son politique. Pim, voilà le paradoxe. Et ce paradoxe se nourrit aussi beaucoup de cette promesse intenable, peut-être du fait de l'obsolescence de notre modèle de 5e République. Cette dernière, on en parle depuis longtemps, ne correspond plus vraiment à notre société. La promesse de l'autorité si difficile à tenir et par des élus en premier, ils ont du mal, ces élus parlementaires, élus de terrain. Du mal à incarner, du mal à faire vivre la démocratie, probablement parce que ce modèle d'homme et de femme politique est lui aussi obsolète finalement. D'une certaine manière, les Français sont les champions de la démocratie des licornes. Vous savez, cet animal, mi-animal évidemment, mi-chimère, qui envoie des paillettes et puis des arcs-en-ciel et puis de la poésie. Et là, la démocratie des licornes, eh ben, ça fonctionne pas. Alors la question de l'obsolescence amène celle de l'innovation. Innover parce qu'il est urgent de trouver une autre manière de faire de la politique et on voit ici et là des gens qui inventent des trucs. Et peut-être que trouveront le moyen, et j'adorerais ça, de faire cohabiter les licornes avec la vraie vie.
J'aime beaucoup cette idée des licornes, cette démocratie des licornes.
Je crois beaucoup aux licornes.
Donc, les licornes sauveront-elles la démocratie française ? Ce sera peut-être un thème à explorer. C'est peut-être
voilà,
ça qu'on va voir.
Ça. Peut-être qu'elles ouvriront le bureau de défense contre les forces du mal. Les amis d'Harry Potter se reconnaîtront.
Alors, tu as parlé des institutions aussi de la 5e République. D'ailleurs, on en parle dans cette rencontre avec Jean-Philippe de Rosier, justement. Je vous propose dès maintenant de faire connaissance avec Jean-Philippe de Rosier, donc je le disais, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'université de Rouen. La première question que je lui ai posée, c'est tout simplement, mais qu'est-ce que c'est donc que la démocratie ? On l'écoute.
La démocratie, on peut la définir de plusieurs façons. On peut faire une première référence très, très simple et très compréhensible à partir de l'aphorisme de Abraham Lincoln et qui figure aujourd'hui à l'article 2 de notre Constitution de la 5e République. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Démocratie, je n'apprends rien à personne, c'est issu d'un lexème grec, démos, kratos. Kratos, c'est le gouvernement, démos, c'est le peuple. Et donc, c'est ni plus ni moins que le gouvernement du peuple, le peuple qui décide de l'ensemble des décisions publiques, des décisions politiques. Dans une définition peut-être plus juridique, on peut distinguer plusieurs formes de démocratie, sa forme la plus pure à sa forme non pas impure mais instrumentalisée, déclinée et mise en œuvre. La forme la plus pure de la démocratie, c'est ce que l'on appelle la démocratie directe, où les citoyens, les individus décident directement de l'ensemble des affaires publiques, et l'on a alors ce que l'on peut appeler une identité entre le peuple sujet et le peuple objet de la norme. Hein, les décisions publiques, ce sont des normes juridiques, et le peuple sujet, donc celui qui fait la norme, l'auteur de la norme, est également le peuple objet, c'est-à-dire celui auquel la norme se destine, et celui qui va devoir la respecter. Dès lors que l'on a une identité entre le peuple sujet et le peuple objet, c'est-à-dire que ces deux peuples sont le même, eh bien, on est dans une forme de démocratie la plus pure qui puisse être. Sauf qu'à l'échelle des démocraties contemporaines, qui comptent plusieurs milliers, plusieurs dizaines, centaines de milliers, voire plusieurs millions d'habitants, plusieurs millions d'individus, on a plus de 65 millions d'habitants en France, eh bien, cette identité est impossible à mettre en œuvre. On dit parfois très difficile, non, elle n'est pas très difficile, elle est purement impossible à mettre en œuvre. Et donc, on passe par un certain nombre d'artifices, au premier rang desquels, celui de la représentation, où ce peuple va désigner des représentants, va élire des représentants qui vont être investis d'un mandat qui, au nom du peuple, de prendre les décisions politiques pour ce peuple. Et donc là, on a une identité entre le peuple sujet et le peuple objet, mais qui passe par le truchement d'une tierce personne, le représentant du peuple. Mais l'important est alors, pour que l'on reste dans une démocratie, qu'il y ait toujours une chaîne de légitimation, aussi longue soit-elle, mais toujours ininterrompue, entre ce peuple sujet et ce peuple objet de la norme.
Alors justement, en France, on est donc dans ce modèle de démocratie représentative. Vous parlez d'une chaîne de légitimité, de légitimation. Aujourd'hui, cette chaîne de légitimation, elle est, vous la jugez comme pertinente, efficace pour justement, vous le disiez, pour rester dans un modèle pleinement démocratique en fait.
À mon sens, elle est pleinement pertinente et pleinement efficace. En ce sens que nous avons des représentants à plusieurs niveaux de démocratie, du niveau communal au niveau national, en passant par le niveau départemental et régional, et même au-delà, le niveau européen. Mm-hmm. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Et systématiquement, le peuple est en mesure de prendre part à un vote libre, égal et secret entre l'ensemble des électeurs et qui débouche sur la désignation de ses représentants. On a élu il y a quelques semaines les représentants dans les conseils régionaux, il y a quelques mois les représentants dans les conseils départementaux, l'année dernière les conseils municipaux, et il y a quelques années maintenant notre président de la République et nos représentants à l'Assemblée nationale. Donc tout cela fonctionne. Alors il y a indubitablement un certain nombre de difficultés qui apparaissent, mais qui ne sont pas véritablement nouvelles et qui ne font que s'accroître au fil des années, à savoir une démobilisation des électeurs et de l'électorat avec un taux d'abstention qui va donc croissant, même si on en peut en observer un certain tassement, c'est lors des dernières opérations électorales, voire un certain regain de la participation. Cette abstention est due à plusieurs facteurs. Mais certainement pas le dysfonctionnement de la démocratie. Mmh. Je ne pense pas que ce soit là le facteur qui justifie l'abstention.
Oui, voilà, le dysfonctionnement n'est pas dans le procédé, mais plus dans la dynamique de la vie politique qui amène à ces temps de vie de la démocratie.
Oui, en effet, c'est peut-être là que réside le souci, à savoir une déconsidération du citoyen par ses représentants. Le citoyen a peut-être le sentiment, je ne sais pas, je ne suis pas sociologue ni politologue, je suis juriste comme vous l'avez dit, mais l'analyse que je peux en faire, c'est que le citoyen a peut-être le sentiment qu'il élit des représentants lesquels ne parviennent pas à atteindre les résultats auxquels ils se sont engagés lorsqu'ils se sont fait élire. Mmh. Et ce problème, cet échec, entre guillemets, peut être lui aussi dû à plusieurs facteurs. L'un d'entre eux peut être le fait que, en réalité, le représentant n'avait jamais eu l'intention d'atteindre ces résultats-là, qu'il ne voulait que satisfaire ses fins personnelles. Mmh. Ce serait le pire des scénarios. J'espère qu'il n'existe pas, mais on ne peut rien exclure. Et à l'extrémité inverse, on pourrait dire qu'en réalité, lorsqu'il a été investi, il a découvert une situation ne le mettant pas en en mesure d'atteindre ses résultats. Et lorsqu'il s'est présenté face à ses électeurs, il n'avait pas connaissance de cette situation, si bien qu'il ne pouvait pas leur faire des promesses, des engagements en toute connaissance de cause. Mmh. Peut-être qu'entre ces deux extrémités, il y a un certain nombre d'autres facteurs, à savoir des situations très politiques qui font que la vie quotidienne doit être prise en compte, changée, et qu'en effet, il n'est pas toujours possible d'atteindre systématiquement l'ensemble des résultats et des engagements auxquels on s'est engagé et que l'on s'est promis d'atteindre lors d'une campagne électorale.
Alors Jean-Philippe de Rosier, il y a un autre mot important qui régit en quelque sorte nos institutions en France, c'est le mot république. Là aussi, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est la république.
Alors la République, on a toujours un peu de mal à la distinguer de la démocratie. Je vous ai dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, j'ai même ajouté du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et la République, c'est une, comme vous l'avez dit vous-même en introduction, la res publica, la chose publique et le pouvoir qui est chose publique. On distingue classiquement la République d'une autre forme de régime, qui est la monarchie, alors même que en réalité, les deux ne sont pas forcément totalement incompatibles. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. En tout état de cause, il peut y avoir des systèmes qui ne sont pas républicains mais qui sont démocratiques, des systèmes qui ne sont ni républicains ni démocratiques, et des systèmes qui sont les deux, comme c'est le cas de la France. Donc la République, qu'est-ce que c'est? La République, comme je le disais, c'est le pouvoir qui est chose publique et donc le pouvoir qui est livré à la sphère politique, la cité athénienne, la cité étatique aujourd'hui, et donc cette attribution du pouvoir se fait par la voie publique, que l'on oppose donc à la voie privée, qui serait la transmission privée et donc héréditaire du pouvoir, comme c'est le cas dans une monarchie. En France, nous sommes dans une république. La république a été proclamée pour la dernière fois le 4 septembre 1870 et depuis lors, elle n'a plus jamais été remise en cause. Je passe un petit peu sous silence la parenthèse de Vichy de 1940 à 1944. Mais là encore, on était dans un système certes dictatorial, mais qui se prévalait néanmoins de la république. Et par l'ordonnance du 9 août 1944, on n'a pas proclamer à nouveau la République, on n'a fait que rétablir la légalité républicaine, ce qu'a fait le général de Gaulle, posant comme principe que lui-même avait continué à l'incarner au-delà du régime de Vichy. Donc la dernière fois que la République a été proclamée en France, c'était le 4 septembre 1870, et elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui sous le régime de la 5e République, qui est également un régime démocratique. Mais il y a d'autres régimes qui sont non républicains, mais démocratiques malgré tout. Le régime de la Grande-Bretagne, qui est le plus connu, qui s'appelle Royaume-Uni, et l'ensemble des monarchies de l'Union européenne et de l'Europe, il y a l'Espagne, il y a la Suède, il y a le Danemark, et j'en passe, sont des monarchies, et donc on ne peut pas les qualifier de républiques, mais elles sont néanmoins des démocraties, des monarchies constitutionnelles, des monarchies démocratiques. Il y a à l'inverse d'autres régimes qui sont des républiques et qui ne sont pas des démocraties. J'ai cité Vichy, mais je peux citer un autre régime bien plus horrible que le régime de Vichy, le régime du Troisième Reich, sous Hitler. Il est accédé au pouvoir par la voie publique, non héréditaire. C'était donc une forme de république, mais une république dictatoriale et qui n'avait, entre guillemets, de république que le nom et certainement pas les attributs de la démocratie.
Et on peut le rappeler qui, malheureusement, l'arrivée au pouvoir d'Hitler par les urnes.
Tout à fait. Voilà. Arrivé au pouvoir par les urnes, par un certain mise en forme de coup d'État, mais comme la plupart des coups d'État, avec l'affichage d'un coup d'État légal, entre guillemets. Et c'est bien ce qui a été pris en conscience au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a préparer la constitution qui est encore en vigueur aujourd'hui, celle de 1949, la loi fondamentale, où elle a voulu par tout moyen éviter le rétablissement de ce coup d'État légal d'Hitler en 1933 et éviter que les droits fondamentaux soient à nouveau bafoués, que la séparation des pouvoirs soit à nouveau écartée et que les principes démocratiques soient à nouveau oubliés.
Alors, on est dans la 5e République, vous l'avez précisé. On entend quand même, depuis un certain nombre d'années, mais un certain nombre de partis qui parlent de plus en plus d'une 6e République qui serait nécessaire parce que les institutions de la 5e République ne seraient plus en phase avec la société aujourd'hui. Alors, ça vient de partis comme Nouvelle Donne, mais aussi des partis comme le Front de Gauche qui portent ces dynamiques-là. Est-ce que vous, en tant que constitutionnaliste, vous avez le sentiment que les institutions que vous expliquez souvent à vos étudiants sont dépassés aujourd'hui?
Alors, je vais réagir en deux temps, oui. D'abord sur cette 6e République et ensuite plus sur le fond de ces institutions. Ceux qui appellent à une 6e République, je suis prêt à parier que si la 6e République arrivait, ils appelleraient à la 7e. Et ainsi de suite, en réalité, ce qu'ils appellent, ce n'est pas dans une 6e République qu'un changement d'un certain nombre de principes constitutionnels qui gouvernent notre régime. Preuve en est d'ailleurs, vous avez cité un certain nombre de partis politiques ou de courants de pensée qui militent pour une 6e République, ils sont très hétéroclites, très divergents, on peut même ajouter le Front National qui lui aussi appelle à une 6e République, et on a là absolument tout l'échiquier politique qui est face à nous, et qui bien sûr n'appelle pas aux mêmes réformes, si bien que cette 6e République en réalité n'est qu'affichage. Par conséquent, je pense qu'il faut davantage réfléchir, non pas à savoir s'il faut changer de République, mais qu'il faut changer un certain nombre de principes institutionnels, de principes qui sont inscrits dans notre Constitution. À mon sens, la Constitution de la 5e République a permis à la France de rentrer dans l'ère des démocraties modernes, dans l'ère des démocraties parlementaires rationalisées et dans l'ère donc d'un régime démocratique efficace. Certes, avec un certain nombre d'adaptations, mais notre 5e République, en dépit de certaines spécificités, on parle parfois du pouvoir du chef de l'État, on parle parfois de l'effacement du Parlement, mais en réalité, tout cela n'est en rien totalement différent de tout ce qui nous entoure. Mmh. Là où, chez nous, en effet, François Hollande exerce un certain pouvoir, eh bien, chez nos voisins frontaliers, ce n'est pas François Hollande mais Angela Merkel. Certes, elle est chef du gouvernement et pas président de la République, mais le système est différent. Outre-Atlantique, c'est le président Obama. Mmh. Et là encore, le système institutionnel est différent. Cela ne signifie pas, ni pour le premier, ni pour la deuxième, ni pour le troisième de ces personnages que j'ai cités, qu'ils peuvent exercer leur pouvoir impunément, sans aucune limite. Mmh. La même remarque vaut pour le Parlement. Notre Assemblée nationale et notre Sénat, pour la première élue directement, pour le second élue indirectement par le peuple, certes sont effacés, peuvent paraître effacés face au pouvoir exécutif, mais d'une part c'est la règle dans n'importe quel régime, il faut une direction, et ensuite la validation populaire ou au nom du peuple, c'est ainsi que cela se passe également chez nos voisins, et on le remarque mieux que jamais dans la période actuelle, et depuis l'élection de François Hollande, le Parlement est en mesure de faire entendre sa voix, de résister face au programme politique de l'exécutif, et donc il n'est en rien totalement effacé. Mmh. Ce que l'on reproche parfois à notre régime de la 5e République, c'est que tout le pouvoir serait exercé par le président de la République, lequel ne serait pas responsable politiquement. C'est, je pense, doublement faux. D'une part, tout le pouvoir n'est pas exercé par le président de la République. D'abord parce qu'il doit composer, évidemment, avec un gouvernement et un premier ministre. Certes, c'est lui qui le nomme, mais il ne peut le nommer que conformément à la majorité qui est reflétée à l'Assemblée nationale. Mmh. Et il n'a ici de latitude qu'une latitude proportionnée au soutien dont il bénéficie à l'Assemblée nationale. Oui. S'il a un soutien absolu de l'Assemblée nationale, c'est que le peuple a choisi de lui donner ce soutien absolu, auquel cas, en effet, il sera en mesure de choisir absolument qui il veut au sein du gouvernement et en particulier à sa tête. Si ce soutien est plus limité et relatif,
on a vu des cohabitations.
On a vu des cohabitations, on a vu des gouvernements, certes majoritaires, mais d'une majorité que relative, le gouvernement Rocard, on a vu des gouvernements qu'on appelle minoritaires, le gouvernement de Raymond Barre sous Valéry Giscard d'Estaing en 1976, on a vu des gouvernements pluriels qui devaient composé avec plusieurs partis politiques d'une même majorité, eh bien tout cela affaiblit la marge de manœuvre et donc le pouvoir du chef de l'État.
We'll be right back.
bouton vibre. Une programmation musicale ce soir 100% Bowie. Et figurez-vous que c'est vous, chers auditeurs, qui faites la programmation musicale de Ton Libre. Ce soir, 100% David Bowie. Et oui, lundi dernier, le 11 janvier, on apprenait sa mort. Ce morceau que l'on écoute, c'est The Get Up Kids, Suffragette City, donc une reprise que vous m'avez proposée sur Twitter. Bah oui, il suffit de me contacter sur Twitter, @ongreb, pour faire vos propositions musicales et on les écoute avec grand plaisir, grand bonheur. Donc vous avez vu, j'ai l'art de la transition hein, pour cette première, après cette première partie d'interview avec Jean-Philippe Derosier. On est revenu sur des mots simples mais importants, démocratie, République, la question des institutions. Moi, ce que j'aime bien, Marie, j'aimerais avoir ton retour, mais c'est de peut-être de se dire, et la suite de l'entretien va sans doute dans ce sens-là, de se dire que c'est pas forcément les outils démocratiques qui sont à remettre en cause, que la façon de les utiliser et de faire vivre cette démocratie.
Oui, il a parlé de la désillusion des promesses, qu'on espère qu'aucun élu n'a menti sur son programme, et je pense que c'est vraiment une question de fond. On voit bien que la structure démocratique, elle est là, et c'est un peu comment on l'utilise. Et il a abordé un deuxième point qui est fondamental, c'est le délicat exercice du pouvoir.
Et oui, voilà, l'exercice du pouvoir, un vrai sujet. Et de toute façon, c'est vrai que là, on va balayer plein de sujets dans cette première émission, mais jusqu'au mois de juin, on ira décortiquer l'ensemble de ces questions dont on trace à grands traits les enjeux ce soir. Alors, pour continuer justement cette rencontre avec Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Rouen. Après cette première partie, je lui ai demandé d'évoquer le modèle allemand. On parle souvent de l'Allemagne comme étant une grande référence et je l'interrogeais justement sur le principe des coalitions où les partis en fait, se retrouvent, sont en coalition autour de projets, d'un programme. Est-ce que c'est peut-être une voie à suivre pour redonner vie, corps, sens et implication citoyenne dans notre démocratie? Je vous propose de continuer à l'écouter.
Je ne suis pas sûr. D'une part, ce qui se passe en Allemagne se passe de façon assez exceptionnelle, pas toujours à la satisfaction des électeurs. Mmh. Preuve en est, lorsqu'ils ont le choix de le reconduire ou non, généralement, ils ne le reconduisent pas. Mmh. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, contrairement à un certain nombre d'autres régimes politiques qui nous entourent, la France est, je crois, un régime et un pays très clivé et très clivant. Il ne faut pas oublier que c'est en France que la distinction entre la gauche et la droite a été inventée. Oui. Hein, lors des débats sur la Constituante en 1789, c'est à ce moment-là, à propos du veto du roi, que le président de séance, ne parvenant pas à compter les voix, a dit ceux qui sont contre se placent à ma gauche, ceux qui sont pour se placent à ma droite. Et c'est ainsi que la distinction gauche-droite est née. Donc, je cite souvent cette anecdote à mes étudiants.
Je ne la connaissais pas, c'est intéressant.
Les amuser et bien leur faire comprendre que c'est de chez nous que ça vient. Mm-hmm. Et donc, je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet, mais il y a un tempérament politique qui fait qu'effectivement la France est un pays extrêmement clivé et que l'opposition d'ailleurs, je ne veux pas faire de généralité, mais est assez rarement constructive. Mm-hmm. Hein, lorsque l'on voit comment fonctionne le